Crois-moi sur parole, la guerre n'a jamais ressemblé à un film. Aucun de mes copains n'avait la tête de Robert Mitchum, et si Odette avait eu ne serait-ce que les jambes de Lauren Bacall, j'aurais probablement essayé de l'embrasser au lieu d'hésiter comme un con devant le cinéma. C'était la veille de l'après-midi où deux nazis l'ont abattu au coin de la rue des Acacias. Depuis, je n'aime pas les Acacias. Le plus dur, je sais que c'est difficile à croire, fut de trouver la résistance. Après la disparition de Cossa et de ses copains, mon petit frère et moi broyons du noir. Au lycée, entre les réflexions antisémites du prof d'histoire-géo et les sarcasmes des élèves de philo avec lesquels on se battait, la vie n'était pas très marrante. Je passais mes soirées devant le poste de radio à guetter des nouvelles de Londres. À la rentrée, nous avions trouvé sur nos pupitres des feuilles titrées « Combat ». J'avais vu le garçon qui sortait en douce de la classe. C'était un réfugié alsacien nommé Bergholz. J'avais couru à toutes jambes pour le rejoindre dans la cour, pour lui dire que je voulais faire comme lui, distribuer des tracts pour la résistance. Il avait rigolé quand j'avais dit ça, mais j'étais quand même devenu son second. Et les jours suivants, en sortant de cours, je l'attendais sur le trottoir. Dès qu'il arrivait au coin de la rue, je me mettais en marche et lui accélérait le pas pour me rejoindre. Ensemble, nous glissions des journaux gaullistes dans les boîtes aux lettres, parfois nous les jetions des plateformes de tramway avant de sauter en marche et de décamper. Un soir, Bergholz n'apparut pas à la sortie du lycée, et le lendemain non plus. Désormais, à la fin de la classe, avec mon petit frère Claude, nous prenions le petit train qui longeait la route de Moissac. En cachette, nous nous rendions au manoir. C'était une grande demeure où vivaient cachés une trentaine d'enfants dont les parents avaient été déportés. Des éclaireuses scouts les avaient recueillis et prenaient soin d'eux. Claude et moi allions y biner le potager. Parfois, nous donnions des cours de maths et de français aux plus jeunes. Chaque jour passé au manoir, j'en profitais pour supplier Josette, la directrice, de me filer un tuyau qui me permettrait de rejoindre la résistance. Et chaque fois, elle me regardait en levant les yeux au ciel, faisant mine de ne pas savoir de quoi je lui parlais. Mais un matin, Josette m'a pris à part dans son bureau. « Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Rends-toi devant le 25 de la rue Bayard à 2h de l'après-midi. » Un passant te demandera l'heure, tu lui répondras que ta montre ne marche pas. S'il te dit « vous ne seriez pas Jeannot », c'est que ce type est le bon. Et c'est comme cela que ça s'est passé. J'ai emmené mon petit frère et nous avons rencontré Jacques devant le 25 de la rue Bayard à Toulouse. Il est entré dans la rue en manteau gris et chapeau de feutre, une pipe au coin des lèvres. Il a jeté son journal dans la corbeille fixée au lampadaire. Je ne l'ai pas récupéré parce que ce n'était pas la consigne. La consigne, c'était d'attendre qu'il me demande l'heure. Il s'est arrêté à notre hauteur, nous a toisés, et quand je lui ai indiqué que ma montre ne marchait pas, il a dit s'appeler Jacques et a demandé lequel de nous deux était Jeannot. J'ai fait aussitôt un pas en avant, puisque Jeannot, c'était moi. Jacques recrutait lui-même les partisans. Il ne faisait confiance à personne, et il avait raison. Ce n'est pas très généreux de dire ça, mais il faut se remettre dans le contexte. À ce moment-là, j'ignorais que dans quelques jours, un résistant qui s'appelait Marcel Langer serait guillotiné à cause d'un procureur français qui avait demandé sa tête et l'avait obtenue. Et personne en France, zone libre ou pas, ne se doutait qu'après que l'un des nôtres eût descendu ce procureur en bas de chez lui un dimanche, alors qu'il allait à la messe, plus aucune cour de justice n'oserait condamner à mort un partisan arrêté. Je ne savais pas non plus que j'irais abattre un salopard haut responsable de la milice, dénonciateur et assassin de tant de jeunes résistants. Le milicien en question n'a jamais su que sa mort n'avait tenu qu'à un fil, que j'ai eu tellement peur de tirer que j'aurais pu me pisser dessus, que j'ai failli lâcher mon arme et que si cette ordure n'avait pas dit pitié, lui qui n'en avait eu pour personne, je n'aurais pas eu la rage de le descendre de 5 balles dans le ventre. On a tué. J'ai mis des années à le dire. On n'oublie jamais le visage de quelqu'un sur qui on va tirer. Mais nous n'avons jamais abattu un innocent, pas même un imbécile. Je le sais, mes enfants le sauront aussi, c'est ça qui compte. Pour l'instant, Jacques me regarde, me jauge, me renifle, presque comme un animal. Il se fie à son instinct, et puis il se campe devant moi. Ce qu'il va dire dans 2 minutes fera basculer ma vie. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Rejoindre Londres. Alors je ne peux rien faire pour toi, répond-il. Londres, c'est loin et je n'y ai aucun contact. Je m'attendais à ce qu'il me tourne le dos et s'en aille, mais Jacques reste devant moi. Son regard ne me quitte pas. Je tente ma chance une seconde fois. Pour Pouvez-vous me mettre en relation avec les maquisards? Je voudrais aller me battre avec eux.
Ça aussi, c'est impossible, reprend Jacques en rallumant sa pipe.
Pourquoi?
Parce que tu dis que tu veux te battre. On ne se bat pas dans le maquis. Au mieux, on récupère des colis, on passe des messages, mais la résistance y est encore passive. Si tu veux te battre, c'est avec nous.
Nous?
Es-tu prêt à combattre dans les rues?
Ce que je veux, c'est tuer un nazi avant de mourir. Je veux un revolver.
J'avais clamé ça d'un air fier, Jacques a éclaté de rire. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il y avait de drôle. Je trouvais même cela plutôt dramatique. C'est justement ce qui l'avait fait rigoler.
Tu as lu trop de livres. Il va falloir qu'on t'apprenne à te servir de ta tête.
Sa remarque paternaliste m'avait un peu vexé, mais pas question qu'il s'en aperçoive. Voilà des mois que je tentais d'établir un contact avec la résistance, et j'étais en train de tout gâcher. Je cherche des mots justes qui ne viennent pas, un propos qui témoigne que je suis quelqu'un sur qui les partisans pourront compter.
Jacques me devine, il sourit, et dans ses yeux, je vois soudain comme une étincelle de tendresse.
Nous ne nous battons pas pour mourir, mais pour la vie, tu comprends?
Ça n'a l'air de rien, mais cette phrase, je l'ai reçue comme un coup de poing. C'était les premières paroles d'espoir que j'entendais depuis le début de la guerre. Depuis que je vivais sans droit, sans statut, privé de toute identité dans ce pays qui était le mien hier encore. Mon père me manque, ma famille aussi. Que s'est-il passé? Autour de moi, tout s'est évanoui. On m'a volé ma vie parce que je suis juif et que cela suffit à des tas de gens pour me vouloir mort. Derrière moi, mon petit frère attend. Il se doute que quelque chose d'important se joue, alors il tout saute afin de rappeler qu'il est là lui aussi.
Jacques pose sa main sur mon épaule.
Viens, ne restons pas ici. Une des premières choses que tu dois apprendre, c'est de ne jamais rester immobile. C'est ainsi qu'on se fait repérer. Un gars qui attend dans la rue par les temps qui courent, c'est toujours louche.
Et nous voilà, marchant le long d'un trottoir dans une ruelle sombre, avec Claude qui nous emboîte le pas.
J'ai peut-être du travail pour vous. Ce soir, vous irez dormir au 15 rue du Ruisseau, chez la mère du Blanc. Elle sera votre logeuse. Vous lui direz que vous êtes tous les deux étudiants. Elle te demandera certainement ce qui est arrivé à Jérôme. Réponds qu'il est parti retrouver sa famille dans le Nord.
Je devinais là ces âmes qui donneraient l'accès à un toit et qui sait peut-être même à une chambre chauffée. Alors, prenant mon rôle très au sérieux, j'ai demandé qui était ce Jérôme, histoire d'être au point si la mère du Blanc cherchait à en savoir plus sur ses nouveaux locataires.
Jacques m'a aussitôt ramené à une réalité plus crue. Il est mort avant-hier, à 2 rues d'ici.
Et si la réponse à ma question « veux-tu entrer au contact direct de la guerre » est toujours oui, alors sache que c'est lui que tu remplaces. Ce soir, quelqu'un frappera à ta porte. Il te dira qu'il vient de la part de Jacques.
Avec un tel accent, je savais bien que ce n'était pas son véritable prénom, mais je savais aussi que lorsqu'on rejoignait la résistance, votre vie d'avant n'existait plus, et que votre nom disparaissait avec.
Jacques m'a glissé une enveloppe dans la main. Tant que tu paieras le loyer, la mère du Blanc ne posera pas de questions.
Allez vous faire photographier, il y a une cabine à la gare.
Barrez-vous maintenant, nous aurons l'occasion de nous revoir.
Jacques a continué son chemin. Au coin de la ruelle, sa longue silhouette s'est effacée dans la bruine.
On y va, dit Claude.
J'ai emmené mon frère dans un café et nous avons pris juste de quoi nous réchauffer.
Attablé contre la vitrine, je regardais le tramway remonter la grande rue.
« Tu es sûr ?» a demandé Claude en approchant ses lèvres de la tasse fumante.
« Et toi ?»«
Moi, je suis sûr que je vais mourir. À part ça, je ne sais pas. »«
Si nous entrons dans la résistance, c'est pour vivre, pas pour mourir, tu comprends ?»«
D'où sors-tu une chose pareille ?»«
C'est Jacques qui me l'a dit tout à l'heure. »
Alors, si Jacques le dit.
Et puis un long silence s'est installé. Deux miliciens sont entrés dans la salle, ils se sont assis sans nous prêter attention. Je redoutais que Claude ne fasse une connerie, mais il s'est contenté de hausser les épaules. Son estomac gargouillait.
J'ai faim, a-t-il dit. Je n'en peux plus d'avoir faim.
J'avais en face de moi un gamin de 17 ans qui ne mangeait pas à sa faim. J'avais honte de mon impuissance. Mais ce soir, nous nous joindrions peut-être enfin au combat et les choses finiraient par changer.